Retour au discours de Vautrin. Afin de se faire une idée encore plus concrète de ce que représente l'héritage dans la vie des uns et des autres, et afin notamment de répondre précisément à l'interrogation existentielle posée par le discours de Vautrin, quel niveau de vie peut-on atteindre par l'héritage et quel niveau de vie peut-on atteindre par le travail, la meilleure façon de procéder consiste à se placer au niveau des générations qui se sont succédées en France depuis le début du XIXe siècle et à comparer les différents types de ressources auxquelles elles ont eu accès au cours de leur vie. Cette perspective par génération et sur l'ensemble de la vie est la seule qui permette de prendre correctement en compte le fait que l'héritage n'est pas une ressource que l'on reçoit chaque année. En particulier, quand on constate que le flux successoral représente l'équivalent de 20% du revenu disponible, cela ne signifie évidemment pas que chacun reçoit chaque année l'équivalent de 20% de revenus supplémentaires à travers un flux régulier des successions et donations. Cela signifie que chacun reçoit quelquefois dans sa vie, typiquement au décès de ses deux parents, et parfois également sous forme de plusieurs donations, des montants beaucoup plus importants, par exemple plusieurs années de revenus, et qu'au total, ces successions et donations représentent chaque année l'équivalent de 20% du revenu disponible de l'ensemble des ménages. Examinons tout d'abord l'évolution de la part que représente en moyenne l'héritage dans les ressources totales reçues par les générations nées en France dans les années 1790-2030. Voir graphique 11.9. Nous avons procédé de la façon suivante. À partir de nos séries portant sur le flux successoral annuel et des données détaillées disponibles sur les âges des défunts, héritiers, donateurs et donataires, tout au long de la période étudiée, nous avons calculé la part de l'héritage dans les ressources totales reçues au cours de la vie en fonction de l'année de naissance. Toutes les ressources, c'est-à-dire l'héritage, succession et donation, d'une part, et les revenus du travail, d'autre part, après déduction des impôts, ont été capitalisés sur l'ensemble de la vie en utilisant le rendement net moyen du capital en vigueur en France au cours des différentes années. Cette méthode est la plus justifiée en première approche, mais il est à noter qu'elle conduit sans doute à sous-estimer légèrement la part de l'héritage dans la mesure où les héritiers et les patrimoines élevés en général parviennent le plus souvent à obtenir un rendement plus élevé que l'épargne issue des revenus du travail. Les résultats obtenus sont les suivants. Si l'on considère l'ensemble des personnes nées en France dans les années 1790, on constate que l'héritage représente environ 24% des ressources totales reçues au cours de leur vie, et donc que les revenus du travail représentent par construction environ 76% des ressources totales. Pour les personnes nées dans les années 1810, la part de l'héritage est de 25% et celle des revenus du travail est de 75%. Il en va de même, en première approximation, pour toutes les générations du XIXe siècle, tout du moins pour celles qui ont hérité avant la Première Guerre mondiale. On notera que la part de l'héritage dans les ressources totales, de l'ordre de 25% au XIXe siècle, est légèrement plus élevée que le niveau du flux successoral, exprimé en proportion du revenu national, environ 20-25% à la même époque. Cela vient du fait que les revenus du capital, généralement autour de un tiers du revenu national, sont de facto réattribués pour partie à l'héritage et pour partie aux revenus du travail. Pour les générations nées à partir des années 1870-1880, la part de l'héritage dans les ressources totales se met à décliner progressivement. Cela vient du fait qu'une part croissante de ces personnes auraient dû recevoir leur héritage après la Première Guerre mondiale, si bien que ces personnes touchent en pratique moins que prévu, compte tenu des chocs subis par les capitaux de leurs parents. Le point le plus bas est atteint pour les générations nées dans les années 1910-1920. Ces personnes auraient dû hériter dans l'immédiate après-Seconde Guerre mondiale et pendant les années 1950-1960, c'est-à-dire au moment où le flux successoral est le plus bas, si bien que l'héritage représente à peine 8-10% de leurs ressources totales. La remontée commence avec les générations nées dans les années 1930-1950, qui héritent en particulier au cours des années 1970-1990 et pour lesquelles l'héritage atteint 12-14% des ressources totales. Mais c'est surtout pour les générations nées à partir des années 1970-1980 qui commence à recevoir des donations et successions dans les années 2000-2010, que l'héritage reprend une importance inconnue depuis le 19e siècle, autour de 22-24% des ressources totales. On voit là à quel point nous sortons tout juste de cette expérience historique spectaculaire de la fin de l'héritage, et à quel point les différentes générations du XXe siècle auront connu des expériences dissemblables vis-à-vis de l'épargne et du capital. Les cohortes du baby-boom ont dû se construire par elles-mêmes presque autant que celles de l'entre-deux-guerres et du début du siècle, dévastées par les guerres. Les cohortes nées dans le dernier tiers du siècle sont au contraire soumises au poids de l'héritage presque autant que celles du XIXe et du XXIe siècle. Le dilemme de Rastignac. Nous n'avons pour l'instant examiné que des moyennes. Or, l'une des principales caractéristiques de l'héritage est d'être répartie de façon très inégalitaire. En introduisant l'inégalité de l'héritage d'une part et l'inégalité des revenus du travail d'autre part, au sein des estimations précédentes, nous allons enfin pouvoir analyser dans quelle mesure le sombre discours de Vautrin se vérifie aux différentes époques. On constate sur le graphique 11.10 que les générations nées à la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle, à commencer bien sûr par Eugène de Rastignac, que Balzac fait naître en 1798, font effectivement face au terrible dilemme décrit par l'ex-bagnard. En mettant la main sur un patrimoine, il est possible d'atteindre un niveau de vie beaucoup plus élevé que par les études et le travail. Afin que les différents niveaux de ressources puissent être interprétés de façon aussi concrète et intuitive que possible, nous les avons exprimés en multiples du niveau de vie moyen atteint aux différentes époques par les 50% des travailleurs les moins bien payés. Ce niveau de vie que l'on peut qualifier de populaire correspond en général à environ la moitié du revenu national moyen de l'époque en question et fournit un point de référence utile pour juger de l'inégalité d'une société. Les principaux résultats obtenus sont les suivants. Au XIXe siècle, les ressources dont disposent au cours d'une vie les 1% des héritiers les plus riches, les 1% des personnes recevant l'héritage le plus élevé de leur génération, correspondent à environ 25-30 fois ce niveau de vie populaire. Autrement dit, il est possible, en s'appropriant un tel héritage, en général grâce à ses parents ou à ceux de son conjoint, de s'offrir tout au long de sa vie de l'ordre de 25-30 domestiques rémunérés à ce niveau. Dans le même temps, les ressources apportées par les 1% des emplois les mieux rémunérés, par exemple les emplois de juge, de procureur ou d'avocat dont parle Vautrin, correspondent à environ 10 fois ce niveau de vie populaire. Ce n'est pas négligeable, mais c'est clairement beaucoup moins bien, d'autant plus que, comme le remarque fort justement l'ex-bagnard, il n'est pas si simple d'accéder à de tels emplois. Il ne suffit pas de réussir brillamment ses diplômes de droit. Il faut souvent intriguer pendant de longues années sans garantie de résultat. Dans de telles conditions, si l'on aperçoit dans son voisinage immédiat un héritage du centile supérieur, mieux vaut sans doute ne pas le laisser passer. À tout le moins, ce choix mérite réflexion. Si l'on fait maintenant les mêmes calculs pour les générations nées dans les années 1910-1920, on voit que les choix de vie ne se posent plus du tout de la même façon. Les 1% des héritages les plus élevés apportent des ressources qui sont à peine 5 fois plus élevées que le niveau de vie populaire. Les 1% des emplois les mieux payés apportent quant à eux toujours environ 10-12 fois ce niveau. C'est la conséquence mécanique du fait que la part du centile supérieur de la hiérarchie des salaires a été relativement stable autour de 6-7% de la masse salariale totale sur longue période. Pour la première fois sans doute dans l'histoire, on peut vivre deux fois mieux en accédant à un emploi du centile supérieur plutôt qu'à un héritage du centile supérieur. Les études, le travail et le mérite payent plus que la succession. On remarquera que le choix est presque aussi clair pour les générations du baby-boom. Les Rastignac nés dans les années 1940-1950 ont tout intérêt à viser un emploi du centile supérieur, qui rapporte toujours 10-12 fois le niveau de vie populaire, et à ne pas écouter les sirènes des Vautrins de leur temps. Le centile supérieur de l'héritage monte à tout juste 6-7 fois le niveau de vie populaire. Pour toutes ces générations, la réussite par le travail est devenue plus rentable et non seulement plus morale. Concrètement, Ces résultats indiquent également que pendant toute cette période, et pour l'ensemble des générations nées des années 1910 aux années 1950, le centile supérieur de la hiérarchie des revenus est très majoritairement composé de personnes vivant principalement de leur travail. Il s'agit là d'un événement considérable, non seulement parce que cela représente une grande première historique, en France et selon toute vraisemblance dans l'ensemble des pays européens, mais aussi parce que le centile supérieur constitue dans toutes les sociétés un groupe extrêmement important. Comme nous l'avons noté dans le chapitre 7, le centile supérieur représente une élite relativement vaste et qui joue un rôle central dans la structuration économique, politique et symbolique de la société. Par définition, 500 000 personnes adultes dans un pays comptant 50 millions d'habitants majeurs, comme la France aujourd'hui. Dans toutes les sociétés traditionnelles, l'aristocratie, rappelons-le, représentait entre 1% et 2% de la population en 1789, et jusqu'à la Belle Époque, malgré les espoirs suscités par la Révolution française, ce groupe a toujours été dominé par le capital hérité. Le fait qu'il en ait été autrement pour toutes les générations nées pendant la première moitié du XXe siècle est un événement majeur qui a contribué à nourrir une foi sans précédent dans l'irréversibilité du progrès social et la fin du monde ancien. Les inégalités n'étaient certes pas absentes des Trente Glorieuses, mais elles étaient pensées avant tout à travers le prisme apaisant des inégalités salariales. Un monde salarial certes traversé par des clivages significatifs entre ouvriers, employés, cadres, ces disparités ont d'ailleurs tendance à s'accroître en France dans les années 1950-1960. Mais un monde fondamentalement uni, communiant dans le même culte du travail, fondé sur le même idéal méritocratique et dont on pensait qu'il avait définitivement dépassé les inégalités patrimoniales et arbitraires du passé. Pour les générations nées dans les années 1970-1980, et plus encore pour les générations suivantes, les réalités sont bien différentes. En particulier, les choix de vie sont devenus beaucoup plus complexes. Les héritages du centile supérieur apportent approximativement autant que les emplois du centile supérieur, voire légèrement plus, 12-13 fois le niveau de vie populaire pour l'héritage, contre 10-11 fois pour le travail. On remarquera toutefois que la structure des inégalités et du centile supérieur en ce début de XXIe siècle est également très différente de ce qu'elle était au XIXe siècle. Cela est dû au fait que la concentration de l'héritage est aujourd'hui nettement moins forte qu'autrefois. La masse des héritages n'est pas loin d'avoir retrouvé son niveau du XIXe siècle, mais il est devenu plus rare de recevoir des héritages suffisamment élevés pour financer sans travailler un train de vie de l'ordre de plusieurs dizaines de fois le niveau de vie populaire. Les générations actuelles font face à des inégalités et à des structures sociales qui leur sont propres et qui sont, d'une certaine façon, intermédiaires entre le monde cynique de Vautrin, où l'héritage dominait le travail, et le monde enchanté des Trente Glorieuses, où le travail dominait l'héritage. D'après ces résultats, le centile supérieur de la hiérarchie sociale en vigueur en France en ce début de XXIe siècle devrait comprendre des proportions comparables de hauts revenus issus de l'héritage et du travail. Arithmétique élémentaire des rentiers et des cadres. Récapitulons. Il existe deux conditions pour que puisse prospérer une société patrimoniale et rentière, c'est-à-dire une société où les revenus issus du capital hérité dominent les revenus du travail au sommet de la hiérarchie sociale, à l'image des univers décrits notamment par Balzac ou Jane Austen. Il faut tout d'abord que le poids global du capital et en son sein du capital hérité soit important. Typiquement, il faut que le rapport capital-revenu soit de l'ordre de 6-7 et que le capital hérité représente l'essentiel du stock. Dans de telles sociétés, l'héritage peut représenter environ un quart des ressources totales dont disposent en moyenne les différentes générations, voire jusqu'à un tiers des ressources totales si l'on prend une estimation haute de l'inégalité des rendements du capital, comme cela a été le cas au XVIIIe et XIXe siècle et jusqu'en 1914. Cette première condition, qui concerne la masse de l'héritage, est de nouveau en passe d'être remplie au XXIe siècle. La seconde condition est que la concentration de l'héritage doit être extrêmement forte. Si l'héritage était réparti de la même façon que les revenus du travail, avec des niveaux identiques pour la part du décile supérieur, du centile supérieur, etc., dans le total des héritages et des revenus du travail, le monde de Vautrin ne pourrait jamais exister. Les revenus du travail, représentant une masse qui est toujours beaucoup plus importante que les revenus issus de l'héritage, au moins 3 fois plus forte, les 1% des revenus du travail les plus élevés seraient mécaniquement et systématiquement beaucoup plus importants que les 1% des revenus hérités les plus élevés. Pour que l'effet concentration domine l'effet masse, il est indispensable que le centile supérieur de la hiérarchie de l'héritage détienne à lui seul une part prépondérante du patrimoine hérité total. Tel était précisément le cas des sociétés des 18e et 19e siècles, avec environ 50-60% du patrimoine total pour le centile supérieur, voire 70% au Royaume-Uni ou à Paris à la Belle Époque, c'est-à-dire près de 10 fois plus que la part du centile supérieur de la hiérarchie des revenus du travail dans la masse salariale totale, environ 6-7%, niveau dont nous avons vu qu'il était relativement stable sur longue période. Ce rapport de 1 à 10 entre les concentrations patrimoniales et salariales permet de contrebalancer le rapport de 1 à 3 entre les masses et de comprendre pourquoi un héritage du centile supérieur permet de vivre pratiquement 3 fois mieux qu'un emploi du centile supérieur dans la société patrimoniale du 19e siècle. Voir graphique 11.10. Cette arithmétique élémentaire des rentiers et des cadres permet également de comprendre pourquoi les centiles supérieurs de l'héritage et du travail s'équilibrent à peu près en France en ce début du XXIe siècle. La concentration patrimoniale est de l'ordre de 3 fois plus forte que celle des salaires, à peine plus de 20% du patrimoine total pour le centile supérieur des patrimoines, contre 6-7% de la masse salariale totale pour le centile, et équilibre donc approximativement l'effet masse. On voit aussi pourquoi les héritiers étaient si nettement dominés par les cadres pendant les Trente Glorieuses. L'effet concentration, de 1 à 3, était trop faible pour équilibrer l'énorme effet masse, de 1 à 10. Mais en dehors de ces situations de choc extrême ou de politiques publiques spécifiques, notamment fiscales, la structure naturelle des inégalités semble plutôt conduire à une domination des rentiers sur les cadres. En particulier, lorsque la croissance est faible et que le rendement du capital est nettement supérieur au taux de croissance, il est presque inévitable, tout du moins dans les modèles dynamiques les plus plausibles, que la concentration patrimoniale tende vers des niveaux tels que les hauts revenus du capital hérité dominent largement les hauts revenus du travail.